ce midi au Radio-Journal. Effondrement d'un pont à Baltimore après avoir été heurté par un navire. Les causes de la collision se précisent.
Le navire aurait probablement souffert d'une panne généralisée.
Et la première mine complètement autonome au Canada s'apprête à couler son premier lingot d'or. Bonjour, ici Jean-Sébastien Bernatché. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre à Baltimore, dans le Maryland, pour tenter de retrouver 6 personnes portées disparues à la suite de l'effondrement d'un pont autoroutier. La structure a été heurtée par un porte-conteneur durant la nuit. La piste terroriste a été écartée. Frédéric Arnould est à Baltimore.
Les opérations de sauvetage se poursuivent autour du pont Francis Scott Key de Baltimore, qui s'est écroulé comme un véritable château de cartes vers 1h30 ce matin. L'un des piliers a été frappé de plein fouet par un navire long de 300 mètres et chargé de centaines de conteneurs. Il semble qu'un problème électrique ait causé une panne généralisée et il aurait été impossible à l'équipage et aux experts locaux qui étaient chargés d'assister le commandant du navire d'empêcher cette collision. Un message de détresse a alors été envoyé aux autorités portuaires qui ont pu arrêter la circulation automobile en direction du pont, ce qui a permis de limiter la lourdeur du bilan. Sauf que pour au moins 5 véhicules, il était trop tard. Ils ont été jetés dans les eaux de la rivière Patapsco. 8 travailleurs œuvraient sur le pont à cette heure-là pour des travaux de réfection de maçonnerie. 2 ont été sauvés des eaux glaciales et troubles en pleine nuit. 6 manquent toujours à l'appel. Il y a des plongeurs et des sonars qui ont été utilisés pour aider aux recherches qui, jusqu'ici, ne laisse présager rien de bon pour les disparus. La thèse d'une attaque terroriste a donc été écartée très rapidement par les autorités. L'état d'urgence a été décrété par le gouverneur du Maryland. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à Baltimore.
Le président américain a appelé à la réouverture du port de Baltimore le plus vite possible. Le port qui est bloqué en raison de l'effondrement du pont est l'un des plus importants au pays. Joe Biden a déclaré que le pont serait reconstruit aussi rapidement que possible, mais que cela pourrait prendre du temps. Et puis l'effondrement de ce pont à Baltimore a suscité de nombreuses réactions au Canada aussi. Dans l'est du pays, plusieurs spécialistes du secteur maritime ont tenu à rassurer les Canadiens. C'est le cas de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Précision d'Éric Plouffe.
L'organisme assure que toutes les structures le long du corridor maritime sont sécuritaires en raison de leur conception et des éléments pour les protéger. C'est aussi ce qu'affirme le président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central, Pascal Desrochers, dont l'organisme s'occupe de donner des services de pilotage de navires entre Québec et Montréal. Pour lui, les ponts sont bien protégés.
La seule infrastructure qui était problématique, ça avait été identifié dans les années 70, c'est le pont de la Violette à Trois-Rivières. Et suite à cette étude-là, il y a des enrochements qui ont été faits, d'immenses enrochements, tout le tour des piliers, pour justement protéger les piliers contre une collision avec un navire. Alors, nos infrastructures ici sont bien protégées.
D'autres mesures sont en place pour protéger les ponts. Dans le cas des ponts autoroutiers qui sont à proximité de voies rapides, il y a des installations pour prévenir des dommages éventuels contre les ponts lors d'accidents de la route, comme va nous le préciser le professeur titulaire au département de génie civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal, Bruno Massicotte.
Les ponts autoroutiers, s'ils sont très près des voies routières, on va mettre des glissières de sécurité en béton pour éviter que, par exemple, s'il y a un accident, pour éviter justement qu'un camion ou qu'un véhicule lourd en tout cas, vienne en contact avec le pilier du pont et cause des dommages ou des effondrements.
Donc, bien des mesures sont en place ici pour protéger les ponts. Éric Plouffe, Radio-Canada, Montréal.
En Ontario, le gouvernement de Doug Ford s'apprête à présenter son 2e budget depuis sa réélection en 2022. J'en discute avec Juliane Lapointe à Ottawa. Juliane, les attentes sont élevées?
Oui, plusieurs espèrent obtenir leur part de financement de la province. Les villes en Ontario réclament des investissements en infrastructures. C'est vraiment ce qui se retrouve au haut de leur liste de souhaits. Plus d'argent pour entretenir ou renouveler les routes, les systèmes d'aqueduc, les ponts. La construction de logements est une priorité, en particulier le logement abordable. Mais comme on n'est pas à la veille d'élections en Ontario, on ne doit pas s'attendre à de grandes mesures phares ou de cadeaux pour les électeurs. Voici Pierre Leroux, il est maire du canton de Russell, et Mario Zante, maire de Clarence Rockland.
On a des systèmes d'eau et d'égout, on a des systèmes de transit. Faut qu'il y ait du soutien aux municipalités parce que sinon, on est en train d'aller dans la mauvaise direction.
Les logements abordables et sociaux, très important. Nous avons un énorme manque de ceci, les coûts très élevés.
Et le gouvernement Ford, Juliane, tente de se faire rassurant. Il garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts?
Pas de hausse d'impôts, pas de nouvelles taxes non plus. Il dit que le budget devrait être plutôt équilibré sans donner plus de détails. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la réduction sur la taxe sur l'essence va être prolongée jusqu'à la fin 2024. Il y a aussi des sources qui ont indiqué à CBC qu'il devrait y avoir des mesures pour encadrer les assurances automobiles. Les partis d'opposition souhaitent des mesures pour aider les Ontariens à payer leur logement. Le budget va être déposé à 16 heures cet après-midi.
Merci, Juliane.
Je vous en prie.
Toujours en Ontario, deux bélugas sont morts au parc Marineland de Niagara Falls dans le dernier mois. Au total, ce sont 16 bélugas et un épaulard qui y sont morts depuis 2019. Selon le parc d'attractions, des autopsies indépendantes confirment que les deux mammifères marins sont morts à la suite d'une torsion de l'estomac. Le Service de protection des animaux de l'Ontario enquête sur le parc Marineland qui est souvent critiqué pour les conditions de vie de ces animaux. La première mine complètement autonome au Canada s'apprête à couler son premier lingot d'or. La mine du projet Côté Gold dans le nord de l'Ontario est la première au pays à avoir mis en place les technologies pour l'extraction et le transport de son minerai dès le début de la production. Catherine Brulotte a visité les installations.
À 200 km au nord de Sudbury, plus de 50 millions de tonnes de matériaux sont prêts à être transformés à l'usine du projet Côté Gold. Francis Le Tartlavoie est directeur des opérations.
Côté Gold est la première mine Greenfield à utiliser tout ce qui est forage en mode autonome puis tout ce qui est transport de minerais en mode autonome.
Il n'y a donc personne au volant des gigantesques camions à benne qui transportent chacun plus de 200 tonnes de roches. Leur supervision, comme celle des foreuses, est assurée dans la salle de contrôle de la minière. Lors de notre visite, Stephen Dunlop est aux commandes.
Une fois que tu t'incorpores dans ce système-là, tu aurais de la misère à truster quelqu'un, un opérateur. Parce que tu sais que l'opérateur, il ne voit pas tout le tour, mais le truc, il voit tout le tour, lui.
Le système transforme les pratiques en exigeant, par exemple, des routes sans aucune embûche pour éviter que les véhicules autonomes activent leur arrêt d'urgence à la vue d'un obstacle qui pourrait être contourné par un conducteur. Le type d'emploi nécessaire au sein de l'entreprise se transforme aussi. À nouveau, Francis Le Tartlavoie.
D'une certaine façon, ça vient régler une petite partie de la difficulté à recruter.
Il estime que les nouveaux emplois dans la programmation ou l'opération à distance d'équipement, par exemple, représentent le futur de l'industrie. Ici Catherine Brulotte, Radio-Canada, à Gogama, dans le nord de l'Ontario.